Vous écoutez, on lit pour vous.
L'art subtil de la conversation. Un dossier de Catherine Enfield, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse. Vous aimez parler de vous et de vos expériences personnelles? C'est normal. Votre cerveau aussi aime ça, et pour plusieurs raisons, c'est important de le faire. Mais pour vous faire apprécier des autres, nul besoin de les divertir avec vos meilleures anecdotes. Posez-leur simplement des questions et intéressez-vous à leurs réponses. S'intéresser à l'autre, une question d'écoute. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, Sophie Gache a fait ce que tout le monde faisait, marcher à l'extérieur. J'ai beaucoup marché, et souvent avec des gens qui vivaient seuls, confie la Montréalaise de 57 ans. Chez eux, Sophie Gache a ressenti un grand besoin de parler, d'être écoutée. Elle leur posait des questions et s'intéressait à leurs réponses avec sincérité. Ça, c'est un outil extraordinaire au travail comme dans la famille, confie Mme Gache, anciennement fonctionnaire. Ça débloque des choses incroyables. Dans une conversation, qui trouvons-nous les plus agréables? Ceux qui savent raconter les meilleures anecdotes ou les meilleures blagues ou ceux qui s'intéressent à nous. Des chercheurs du Harvard Business School ont mené une expérience sur la question il y a quelques années. Ils ont recruté 400 personnes et les ont fait échanger en ligne, deux par deux. La moitié avait reçu une consigne secrète, soit de poser plusieurs questions, au moins 9 à leur partenaire, soit d'en poser peu. 4. Résultat. Les participants ont préféré s'entretenir avec les partenaires qui posaient beaucoup de questions. Et ils ont particulièrement aimé une sorte de question. Celle de suivi, donc en lien avec ce qu'ils étaient en train de raconter. Les chercheurs ont reproduit les résultats dans une expérience de speed dating. Célibataire, prenez des notes. Les gens qui ont posé plus de questions de suivi se sont fait proposer davantage de deuxièmes rendez-vous. Qu'est-ce qui peut expliquer cette préférence, du moins à la première rencontre? Selon l'hypothèse des auteurs, c'est lié à l'impression d'être compris, accepté, valorisé, soutenu. Ça nous donne le sentiment que les gens nous aiment, et c'est un besoin fondamental, souligne le neuropsychologue Dave Ellenberg. Solliciter l'opinion de l'autre fait partie des techniques de marketing pour fidéliser les clients, mais aussi des mécanismes que les bons leaders utilisent pour mobiliser leurs employés, souligne le neuropsychologue Mathieu Blanchet. Et ce n'est pas pour rien, selon lui. Il y a quelque chose de flatteur, de valorisant, qui touche l'ego. Bien pour les autres et pour soi. Quand on porte attention à l'autre, on en tire aussi soi-même des bienfaits. C'est une autre région du cerveau qui s'active, le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et la réflexion, explique Dave Ellenberg. L'écoute active, poursuit-il, ça vient réguler les émotions et ça nous donne un sentiment de satisfaction. Et comme effet secondaire, ça réduit le cortisol, l'hormone du stress. C'est donc bénéfique pour la santé mentale. Poser des questions permet aussi de mieux comprendre les intentions de l'autre et de mieux collaborer, dit-il. Et quand j'écoute, quand je pose des questions, l'autre a plus envie de rester là, ajoute la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Encore là, c'est une affaire d'équilibre. Lors d'une première rencontre, ça peut être intéressant de poser beaucoup de questions, ce qui implique qu'on se révèle peu. Ça entretient peut-être même une forme de mystère, selon Mathieu Blanchet, mais à long terme, dit-il, pour développer une relation équilibrée, il faut aussi y mettre du sien. Des personnes ont tendance à monopoliser le micro, mais à l'autre bout du spectre, il y a celles qui parlent très peu d'elles-mêmes et qui se confient très peu. Faut-il se montrer vulnérable dans toutes nos relations? Absolument pas, dit Mathieu Blanchet. Mais c'est important de pouvoir compter sur des gens qu'on peut appeler quand ça ne va pas et avec qui l'on peut être honnête. La Montréalaise Sophie Gache donne l'exemple d'une de ses très bonnes amies qui, pendant longtemps, parlait peu de ses difficultés, comme si elle ne se permettait pas de montrer ses faiblesses. Un jour que ça n'allait pas, elle m'a téléphoné en pleurs. Elle a craqué, se souvient Sophie Gache. À ses yeux, ce fut un moment décisif dans leur relation. Non seulement Sophie a été heureuse et fière de pouvoir aider son amie, mais elle a su qu'elle pourrait aussi se confier à elle à l'avenir. Mathieu Blanchet cite les résultats de son étude préférée, l'étude Grant. Des chercheurs ont suivi depuis 1938 une cohorte d'étudiants de l'Université Harvard et une autre de garçons nés dans des familles défavorisées de Boston. La principale conclusion de l'étude est la suivante. Les personnes les plus heureuses et en bonne santé sont celles ayant des relations positives et des liens chaleureux. Rien ne vaut autant que de se sentir aimé et écouté par les autres. On a besoin de ça, conclut Mathieu Blanchet. Vous écoutez « L'art subtil de la conversation », un dossier de Catherine Enfield, paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Conseil pour une conversation équilibrée. Faire une introspection et, au besoin, valider avec les autres. Vous pensez parler trop ou, au contraire, trop peu parler? Ça se demande. C'est la meilleure solution, estime Mathieu Blanchet. Si vous avez l'impression de beaucoup parler, restez à l'affût du non-verbal des autres, laissez l'autre terminer son idée avant de renchérir et osez poser des questions pour voir l'impact que ça aura. Évitez aussi la rumination. Si vous craignez d'avoir pris trop de place, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore à l'aise de l'avoir prise, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. Si vous avez l'impression de peu vous ouvrir, travaillez sur les raisons sous-jacentes comme la peur de déranger ou celle d'être rejeté. Et osez le faire d'abord dans les relations de confiance, conseille Mme Beaulieu-Pelletier. Le plaisir et l'intérêt de parler de soi. C'est arrivé à tout le monde. Être en compagnie d'une personne qui parle, ramenant constamment à soi le sujet de la conversation, sans poser de questions aux autres. Dave Ellenberg, neuropsychologue, se souvient d'une soirée en particulier il y a une quinzaine d'années. C'était l'anniversaire d'un ami. Ils étaient une douzaine autour de la table. Certains se connaissaient, d'autres moins. Cette soirée-là, il n'y a pas eu de conversation. Une convive a parlé toute la soirée. Un monologue de 5 heures. Ça a été une des soirées les plus désagréables de ma vie, se rappelle-t-il. Dave Ellenberg n'aime pas particulièrement parler de lui. Je ne me trouve pas intéressant, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, il s'intéresse aux autres. Ce soir-là, il s'est retrouvé, en quelque sorte, à alimenter la jeune femme qui parlait essentiellement du monde des finances et de ses relations au travail. Après un moment, il a cessé de lui poser des questions, conscient du malaise ambiant. Ce qui n'a pas freiné les ardeurs de la dame. Je me disais, je ne peux pas lui poser des questions parce que tout le monde s'emmerde, tout le monde est frustré. Mais si je ne pose pas de questions, elle se retrouve seule dans son monologue. J'étais déchiré, raconte Dave Ellenberg. Une question lui est restée. Est-ce que cette personne réalise que ça la rend détestable? La conversation est une danse, un équilibre entre parler et savoir écouter. En psychologie sociale, on la définit ainsi, une interaction coopérative dans laquelle chaque personne se coordonne pour en faire une expérience réussie de compréhension partagée. Vous trouvez la définition compliquée? Pour Charlotte Poitras, 28 ans, les codes de la conversation le sont tout autant. Elle l'admet en toute honnêteté. Quand elle parle de ses passions, elle a tendance à monopoliser la conversation. Enfin, j'étais passionné par le jeu. Et maintenant, c'est l'écriture, précise l'autrice, animatrice et recherchiste. Comme je fais ça dans ma vie, j'ai beaucoup de choses à dire. Elle parle donc de ses projets professionnels et de tout ce que ça engendre, les défis, les déceptions, les conflits. Est-ce une forme d'égoïsme? Un manque d'intérêt envers les autres? La peur de poser de mauvaises questions? C'est vu comme une forme d'arrogance, convient Charlotte, mais je le fais sans m'en rendre compte. Je me laisse porter. Elle a du mal à comprendre le non-verbal des gens et les règles implicites de la conversation. Elle se l'explique mieux aujourd'hui. À 24 ans, elle a reçu un diagnostic d'autisme niveau 1, syndrome d'Asperger. Dans une conversation normale, dit Charlotte Poitras, les gens font semblant d'être intéressés, même s'ils ne le sont pas. Ça, je ne le comprends juste pas. Après avoir été elle-même confrontée à un spectateur très bavard après un spectacle, Charlotte a compris comment les autres pouvaient se sentir lorsqu'elle parle beaucoup. Ses parents le lui ont aussi expliqué. Maintenant, je fais un effort conscient. Après 5 minutes de monologue, je cède le tour de parole, dit celle qui a aussi découvert le plaisir d'écouter et de débattre lorsque le sujet l'intéresse. C'est un apprentissage important. Le risque, lorsqu'on laisse trop peu de place aux autres, c'est de finir par être mis de côté, explique Dave Ellenberg. Intuitivement, je n'ai aucun doute que ça se développe, mais il faut en prendre conscience, dit-il. Mode par défaut. Charlotte Poitras n'est pas la seule à prendre plaisir à parler de choses qui la concernent. Il suffit de tendre l'oreille à la cafétéria ou lors d'un 5 à 7 pour constater à quel point le partage d'expériences personnelles occupe une place importante dans nos conversations. C'est agréable parler de soi. Et pour le cerveau aussi. Lorsqu'on réfère à soi, le cerveau est dans son mode par défaut, explique Mathieu Blanchet, neuropsychologue et professeur de psychologie au Collège Maisonneuve. C'est le même mode que lorsqu'on est distrait ou dans l'introspection ou lorsqu'on réfléchit au passé ou à l'avenir, dit-il. Notre cerveau, théoriquement, c'est son niveau de base, explique Mathieu Blanchet. Donc, ça lui demande un effort de se concentrer sur quelque chose parce qu'il doit désactiver son mode par défaut. Les difficultés sociales dans l'autisme ou encore les problèmes de concentration dans le TDAH pourraient d'ailleurs être liés à un fonctionnement atypique de ce mode par défaut. Vous écoutez L'art subtil de la conversation, un dossier de Catherine Enfield paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Parler de soi, c'est agréable, mais c'est aussi utile. C'est raconter qui on est, ce qu'on vit, ses défis, ses difficultés aussi. Ça nous aide à organiser nos idées et nos émotions, résume le neuropsychologue Dave Ellenberg. Ultimement, ça aide à être plus créatif et plus efficace pour résoudre des problèmes. Quand on partage quelque chose de significatif sur soi, on a plus de chances d'obtenir quelque chose de significatif de l'autre. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, souligne « Quand chacun s'ouvre sur ce qu'il vit, on est dans l'authenticité. » Le partage, ça alimente beaucoup, beaucoup le lien. Faire des parallèles entre son histoire et celle des autres est aussi une façon de témoigner de l'empathie, note Mme Beaulieu-Pelletier. Enfin, quand on parle de soi, on observe aussi comment l'autre réagit, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. Selon la théorie du professeur américain Mark Leary, l'estime de soi est proportionnelle à ce sentiment d'être socialement accepté par les autres. Dans le regard de l'autre, on évalue constamment à quel point on est apprécié ou rejeté, résume la professeure. Je te fais confiance, mais tu vas me renvoyer une image, une appréciation, tu vas peut-être me valider et me soutenir aussi. Et c'est fondamental. C'est comme ça que l'on grandit. Savez-vous vous intéresser aux autres? Lors d'une première conversation, Êtes-vous davantage tourné vers vous-même ou vers les autres? La presse a concocté un petit jeu questionnaire inspiré de résultats d'études en psychologie sociale pour savoir si vous maîtrisez l'art de poser des questions aux autres. Au party de bureau, un nouveau collègue vous raconte une histoire drôle. Intéressé, vous lui posez plusieurs questions. Qui fera la meilleure impression? 1. Votre collègue parce que son histoire était drôle. Vous, parce que vous avez posé des questions. 3. Ni l'un ni l'autre. Réponse? 2. C'est la conclusion de différentes études en psychologie sociale, dont l'étude « It doesn't hurt to ask ». Question asking increases liking. Les participants ont préféré les interlocuteurs qui leur posaient plusieurs questions. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous voulez faire bonne impression, que faites-vous? 1. J'ai tendance à me vendre pour montrer le meilleur de moi-même. 2. J'égraine le chapelet de mes meilleures blagues. 3. Je m'intéresse à l'autre et je le relance avec des questions de suivi. Réponse? 3. Bonne stratégie. Les gens qui s'informent à propos des autres, qui reprennent leurs propos et même qui imitent leurs gestuels, ont tendance à être plus appréciés que ceux qui dominent la conversation. Parlez-vous aux inconnus dans les transports en commun? 1. Oui, et ça favorise mon bien-être. 2. Non, je passe un meilleur moment en regardant mon téléphone. 3. Non, ils me trouveraient bizarre. 4. Non, les inconnus ne s'intéresseraient pas à moi. Réponse? 1. Vous faites bien. Les gens sous-estiment l'intérêt que les autres peuvent avoir envers eux et le bien-être associé aux conversations avec les inconnus. Les expériences menées par le professeur Nicolas Epley de l'Université de Chicago en témoignent. Si vous parliez à un inconnu dans les transports en commun, quel genre de questions lui poseriez-vous? 1. Quelle émission de télévision avez-vous préférée ce mois-ci? 2. Si vous pouviez demander à une boule de cristal quelque chose à propos de vous, ce serait quoi? 3. Que pensez-vous de la température? Réponse 2. Les gens s'attendent à ce que ce genre de questions profondes génèrent des malaises, mais ce sont souvent celles qui engendrent les échanges les plus agréables et significatifs, selon les travaux de Nicolas Epley. Si vous étiez médecin, auriez-vous tendance à poser des questions ouvertes à vos patients pour savoir comment ils vont? 1. Non, je leur poserai des questions précises pour aller droit au but. 2. Oui. Réponse 2. Vos patients vous en remercieraient. Des études montrent que les patients aiment avoir la possibilité de parler de leurs préoccupations à leur rythme et selon leurs conditions. Ils sont ainsi plus satisfaits. C'était L'art subtil de la conversation, un dossier de Catherine Enfield, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
La forêt brière, le legs en or d'un homme d'affaires. Un texte de Lise-Marie Gervais, paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. L'été, quand il n'y a pas trop de brume, on peut voir le mont Washington, dit fièrement Guy Brière, en pointant l'horizon depuis son domaine vert des Cantons de l'Est, qui culmine à près de 550 mètres. Flanqué de ses deux chiens, dont un Terre-Neuve, un poilu de 200 livres mais doux comme un agneau, et de Minuit, son chat noir qui règne sur la canopée, Guy Brière en a long à dire sur sa forêt miracle. À quelques kilomètres de la frontière du Vermont, cette oasis de verdure de 542 hectares s'épanouit au sud de la rivière Missisquoi, non loin de Glen Sutton et du canton de Patton. Et c'est justement pour signifier son attachement à ce pan de territoire, grand comme un peu plus de 1000 terrains de football, acquis au fil de 3 décennies qu'il a consenti à le donner pour le protéger à perpétuité. d'une valeur de 7,4 millions de dollars, ce don privé écologique et historique s'inscrit dans le plus gros projet de conservation que l'organisme Corridor Appalachien, en collaboration avec Conservation de la Nature Canada, CNC, ait eu à gérer au cours des dernières années. En fait, ce sont eux, à Corridor Appalachien, qui m'ont découvert, a raconté Guy Brière, qui a fait fortune dans le domaine de l'édition avec des livres traduits et vendus aux quatre coins du globe, dont les fameux livres de recettes de Paul Martin, vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. J'étais content qu'il m'approche parce qu'on avait pas mal la même vision. Moi, ce que je voulais, c'était protéger la forêt. N'empêche que pour financer les recherches qu'il souhaitait mener sur l'impact des changements climatiques sur cette zone forestière, il était sur le point de vendre 70 lots à des promoteurs immobiliers. Il n'était pas minuit moins une, mais plutôt minuit et cinq, explique Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor Appalachien, qui lorgnait la forêt depuis 10 ans. Avant qu'on le contacte, M. Brière était sur le point de lancer son bureau des ventes, son site Internet était fait. D'habitude, quand tout est loti et que les chemins sont faits, on n'est pas capable de rien faire. Ça a pris du culot, admet-elle, un sourire en coin. Il fait gris en cette fin de décembre et un mince couvert neigeux, voire glacé, subsiste dans les sentiers. Mais pour Guy Brière, la promenade, qui fait désormais partie de son quotidien, vaut toujours le détour. « Il ne doit pas y avoir 20 mètres carrés que je n'ai pas foulé », dit ce passionné de chasse et de pêche. Vous écoutez « La forêt Brière, le legs en or d'un homme d'affaires ». Un texte de Lise-Marie Gervais paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. Avec ses cheveux grisonnants et sa dégaine de coureur des bois, le grand colosse de bientôt 79 ans, plutôt réservé et contemplatif, n'était pas chaud à l'idée d'être sous les projecteurs. Mais quand il s'agit de parler de sa passion pour sa forêt et de convaincre les autres de la protéger, ses mots coulent de source comme un ruisseau au printemps. Mes parents avaient de grandes terres dans le coin de Rawdon. J'ai passé ma jeunesse dans la forêt, à pêcher la barbotte avec un morceau de bois, à jouer avec les petits animaux, à mettre des collets aux lièvres. Plus tard, il développe sa fibre d'homme d'affaires, héritée de son père, commerçant prospère détenant, entre autres, la lingerie Brière. Comme éditeur, Guy Brière parcourt tous les continents. Pendant 20 à 25 ans de ma vie, je passais 60 et 65 heures par mois dans un avion. En revenant, tu n'as pas le goût de voir du monde. C'est là que j'ai acheté ma forêt. C'est mon refuge, explique-t-il. Un refuge dont il n'hésite pas à partager les secrets et les trésors. Pour voir un lynx, il faut que tu regardes où sont les pistes. Après, tu retournes là le matin avant le lever du soleil et tu vas le voir. Il est craintif, mais il repasse toujours à la même place. Véritable joyau de faune et de flore, sa forêt est l'habitat des ours nombreux, dit-on, des castors et des renards, jusqu'à l'énorme grand-duc qui ne ferait qu'une bouchée de minuit le chat. Dans cette généreuse biodiversité, il y a aussi le triton et la salamandre pourpre, de toute beauté, et des sortes de fougères qui n'existent plus dans le reste du Québec. Et par là-bas, j'ai 2 acres d'ail des bois presque mur à mur, dit l'homme avec un regard pétillant trahissant sa gourmandise. Intarissable, Guy Brière disserte avec son franc-parler sur la genèse de la régénération de la forêt jusqu'à l'importance de la chasse pour préserver les écosystèmes. Ces exposés passionnés et passionnants comprennent même un cours d'histoire sur l'époque des coureurs des bois qui faisaient le commerce du ginseng sauvage au XVIIe et XVIIIe siècle jusqu'à celle de la Prohibition. Les Bronfman et les Kennedy avaient des caches dans le secteur, en passant par celle de la marine marchande britannique dont les bateaux ont décimé les forêts des chênes blancs de la région des bois francs. Aujourd'hui, on est chanceux si on en trouve. Course contre la montre. C'est ce trésor que Guy Brière a voulu protéger à perpétuité en le confiant à Corridor Appalachien et ses alliés. L'acquisition à des fins de conservation de ce territoire est stratégique dans la région des Cantons de l'Est, où 95% des terres sont des propriétés privées, puisque cela permet de relier une aire forestière protégée au Vermont avec ses zones déjà conservées du côté québécois. Avec ce projet, on vient se doter d'une police d'assurance pour l'adaptation de nos écosystèmes au changement climatique, a soutenu Mélanie Lelièvre, et de travailler à la consolidation du grand réseau d'air protégé. C'est notamment de s'assurer que les espèces fauniques puissent se déplacer sur le territoire. Bien que le projet soit sur la bonne voie, il est encore trop tôt pour se réjouir pleinement, estime-t-elle. On a le vertige. C'est une énorme responsabilité qu'on se met sur les épaules. En conservation, le travail commence le jour où tout est signé. Sur les 16,4 millions nécessaires à la réalisation du projet, qui comprend des fonds publics, la majeure partie doit venir du privé. Dans cette course contre la montre, Guy Brière a fait sa part pour 7,4 millions, mais d'ici la fin de l'hiver, il reste encore 400 000 $ à amasser sur 1,3 million en dons privés. Tous les dons, petits ou grands, sont bienvenus, soutient-elle. C'est les fêtes et on donne de l'argent à toutes sortes de causes. Pourquoi pas pour la cause de la survie de l'humanité, a déclaré Guy Brière, qui développe ses propres activités de recherche sur le site, notamment sur les maladies transmissibles par les tiques et un volet découverte pour faire connaître sa forêt aux écoliers et autres curieux. Les dons écologiques ne sont qu'un infime pourcentage de la philanthropie, constate Mme Lelièvre. Les grandes fondations sont surtout en santé et en éducation, à la lutte contre la pauvreté. Ce sont toutes de bonnes causes. Mais il reste qu'on est le parent pauvre alors que la maison brûle. Guy Brière l'a compris et il aimerait que d'autres propriétaires terriens lui emboîtent le pas. Ce que je veux dire, c'est que même si tu as 5 acres, 20 acres, tu peux en faire don pour la protéger. Ça fait pas mal, c'est gratifiant, assure-t-il. Moi, ça me donne vraiment un thrill de savoir que ma forêt va être là pour l'éternité, a-t-il ajouté. Comme si Donil l'avait rendu encore plus riche. C'était La forêt Brière, le legs en or d'un homme d'affaires, un texte de Lise Marie Gervais paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir.